Jésus, endoris ta lumière, ta paix. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prière pour s'accepter tel qu'on est. Lorsque j'étais enfant au Seigneur, je ne savais pas cela. Je ne savais pas qu'on peut être fatigué. Fatigué de soi-même et se dire qu'on a manqué sa vie. J'ai connu bien des tentations. Celle-là, je crois, c'est la plus forte. Ah, vouloir une santé meilleure, un esprit plus brillant, un corps moins chétif, une instruction plus haute, une situation haute, et ce large crédit que je vois à certains. Découvrir chez les autres sans chance qu'il m'aurait convenu et sans facilité que je n'ai jamais eue. Savoir qu'il est grand temps de vivre, et trop tard pour rêver. Savoir que l'impossible n'existera jamais. Savoir cela, ô Dieu, c'est déjà la lumière. Et voici qu'elle vient d'où je n'attendais rien. Les rêves sont finis. Il me reste ma vie, la vraie vie, celle qu'il me faut aimer maintenant. Ma vie telle qu'elle est, et ma pauvre santé, et ma carrière obscure, et mes défauts, et mes faiblesses, et tout ce qui me reste dont je ne voulais pas. Tout cela, Seigneur, je voudrais l'accepter aujourd'hui. Et m'accepter moi-même, si pauvre que je sois, si blessé que je sois. Ne plus me tourmenter de ce qui eût pu être et trouver mon bonheur à faire ce que je peux. Amen. L'apôtre va être purifié à différentes saisons de sa vie, à différentes époques. Alors, on va regarder un petit peu certaines époques et comment ce qui se produit au niveau, surtout apostolique. Demain, on verra au niveau spirituel plus. D'abord, l'adolescence au niveau apostolique, c'est-à-dire, on va mettre ça entre 14 et 22 ans. C'est l'âge, quand on rencontre Jésus-Christ, cet âge-là, OK, où le Christ se présente comme l'idéal. Mais l'idéal, surtout rêvé, c'est « Hey, on va en faire des affaires, c'est extraordinaire. » L'idéal rêvé. Et l'apôtre à cet âge, il est jeune, et quand on se regarde, moi je me souviens quand je me suis converti à 21 ans, c'est épouvantable, c'est très sévère. L'apôtre à cet âge a parfois une assurance déconcertante, c'est en même temps un dynamisme. Hein? 20 ans, 18 ans, 17 ans. Mais qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'il compare son idéal rêvé, c'est comme ça qu'on va faire ça, comprends-tu? Et puis qu'il voit les adultes autour de lui, souvent, à cet âge-là, il est très sévère pour les autres. Oh, si lui, il était là, dans ce mouvement-là, je dis que ça ne serait pas comme ça. Il se sent prêt à tout transformer. Et des fois, devant des jeunes apôtres, peut-être même vos enfants, des fois. On se choque des paroles blessantes des jeunes. Mais dans le fond, il est bon, somme toute, qu'il en soit ainsi. Parce que si des jeunes n'avaient pas cet idéal, il ne nous poussera pas. Et cette part d'idéalisation rend le jeune attirant pour les autres jeunes. Parce que c'est l'âge, en même temps, des grands enthousiastes. Et une chose, nous autres les plus vieux, il ne faut jamais se moquer de l'enthousiasme de la jeunesse. C'était des vents, des gens comme ça, quand ils voient des jeunes tout emballés, mettons, qui sortent d'une fin de semaine. Oh, ça va revenir, là, ça va revenir ton affaire. Moi aussi, j'ai connu ça. On est porté à faire ça, des fois. C'est aussi l'âge, entre 14 et 22 ans, où en apostolat, ils ont besoin beaucoup plus que nous de la sensibilité. Pour qu'ils sentent des affaires. Souvent, dans leur fin de semaine, hein, quand ils disent « c'est au bout », ça veut dire qu'il y avait beaucoup de sensibilité, souvent. Bon, ils n'ont plus besoin. Ça ne veut pas dire que c'est très profond, mais ils n'ont plus besoin. Mais voilà qu'à travers ces emballements de jeunes, tranquillement, il y a des décisions qui doivent se prendre. Et en même temps que c'est l'âge de l'idéal rêvé, c'est aussi l'âge du don total de l'héroïsme. Moi, quand je me suis converti à 21 ans, et j'ai rencontré le père Roy, notre fondateur ici. Je travaillais à Seagram,
dans le whisky, j'avais un bon salaire, et puis bang! Alors là, c'était décidé. Rencontre à Perrois, veux-tu te donner? Oui, au bout, puis laisse ma job, m'en viens à Québec. Bon. C'est là, c'est un petit peu comme ça. Et c'est entre 14 et 22 ans que des fois, il y a des appels du Seigneur. Maintenant, la deuxième étape, la jeunesse. Entre 22 et 32, à peu près. Alors, 14 et 22, c'était l'idéal rêvé. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive entre 22 et 32? L'idéal rêvé doit devenir l'idéal engagé. C'est facile quand tu as 16 ans, 17 ans, 20 ans de dire « Hey, moi si je t'ai dans ça, ça changera, je ferai ça. » Et là, mon nez, il est là, change les dons, essaye donc. L'idéal rêvé devient l'idéal engagé. Le projet qu'il y avait dans la tête ou dans le cœur doit se concrétiser dans la réalité. OK? Que ce soit pour commencer une action, pour entreprendre la formation qui prépare l'apôtre, le jeune apôtre se bute à un moment donné, quand il arrive entre 22 et 32, à certaines résistances. C'était bien beau de parler contre les adultes, des affaires-là, mais à un moment donné, lui aussi doit prendre ses responsabilités, puis il doit voir que ce n'est pas si facile que ça. Okay? Je dirais que cette entrée dans l'ère de l'idéal engagé, l'ère de réalisation, est souvent une épreuve, et même s'il est jeune, c'est sa première épreuve dans sa vie apostolique, sa première épreuve. Et certains commencent à reculer dès ce moment-là. Et vous voyez parfois dans l'histoire ou dans des gens que j'ai entendu parler, tel jeune qui entre au séminaire et qui en sort deux mois après, ou tel autre qui rentre dans un projet et qui se décourage six mois après. Vois-tu? Alors, il y a une planification à passer, puis il y en a qui ne passent pas. Ils voudraient que tout soit parfait, ils voudraient que le mouvement soit parfait, et devant les résistances, ils reculent. Alors, parfois, il y a une crise et il semble qu'il y ait recul parce que l'emballement du début, l'idéal rêvé, commence à tomber. Alors là, il faut qu'il soit purifié dans sa sensibilité et il faut que les désirs et l'enthousiasme de l'adolescence deviennent quotidiens dans la réalité. Vous savez, c'est très facile de faire des gros projets. C'est comme la femme qui dit « Ah, je voudrais aller avec Mère Thérèse aux Indes soigner les lépreux. » Des fois, je suis porté à lui dire, c'est ton mari qui est lépreux. C'est quand il vomit, après qu'il a pris ta boisson, là, ramasse ta vomissure, c'est ça, ça ta lèpre. Et c'est beaucoup plus facile de dire aux uns que chez vous. Quand tu es jeune, tu fais des grandes affaires. Ou bien quand un jeune arrive, moi, je vais me donner au coton Christ. J'ai commencé à faire la vaisselle chez vous durant quelques mois. C'est-à-dire que dans la réalité, c'est pas toujours facile. Hein? Mais c'est dans ça qu'est l'amour vrai. C'est dans ça qu'est l'amour vrai. Ce n'est pas celui qui dit oui, dit Jésus, qui fait la volonté de mon Père. C'est celui qui a fait la volonté. Et dans l'Évangile, il y en a pas bien. J'ai vu les deux fils, il dit, il y a deux fils. Il y en a un, son père, il dit, va faire quelque chose pour moi. Il dit, oui, papa, oui, je vais. Puis il va pas. Il dit, l'autre, il dit, va faire quelque chose pour moi. Je vais pas. Puis il va. Qui a fait la montée du père? Celui qui a dit, je vais pas. Il était pareil. C'est pas pire, ça. Hein? C'est pas du sentiment, c'est de l'action. Le Seigneur, il préfère quelqu'un qui dit « Non, c'est toi qui ne vas pas. » Puis il va pareil. Puis celui qui dit « Oui, je vais. » Puis il ne fait rien. Alors maintenant, on va prendre l'adulte. Je veux dire l'adulte au niveau apostolique. En 32 et 52 ans, mettons. L'âge du découragement ou la sagesse. Voilà, passé 32 ans, l'apôtre qui arrive doucement au centre de sa vie. Il arrive à ce que j'ai parlé le matin, à cette crise qu'on a déjà parlé, qui mène soit au découragement et soit au début de la sagesse. Voici l'homme ou la femme apostolique au milieu de sa vie. Voyez-vous, jusqu'alors, toutes les forces de son âme, de sa volonté, de son cœur, ont été tendues par en avant vers un projet réalisé, vers quelque chose à faire, OK? Puis là, tout d'un coup, il arrive, entre 32 et, mettons, 52. Puis là, il voit durant ces années que toute la vie bascule. Puis il prend la pente qui conduit à la mort. Puis il n'a beaucoup plus par en arrière que par en avant, comme je le disais. Et du haut de cet instant qui domine le passé et l'avenir, le regard commence à mesurer ce que sa vie a été. Vois-tu? Puis là, si tu as fait des rêves, là, tu dois t'apercevoir que si ta vie a été tout cela, elle n'aurait été que cela. Oui, vraiment, que cela. Il faut que tu l'acceptes. Alors, va éclater la disproportion entre les projets apostoliques de l'adolescence, entre ses rêves longtemps caressés et cette réalité fixée d'aujourd'hui. Je ne pourrais plus faire les rêves que j'avais pensés. Puis en même temps, il arrive à 35 ans, 40 ans, puis il commence à s'apercevoir que ses forces diminuent. Le danger, c'est quoi à ce moment-là? C'est de perdre l'espérance. Et au milieu de la vie, la grande tentation, c'est pas surtout contre la charité, c'est contre l'espérance. Parce que cette crise au milieu de la vie, l'homme et la femme engagés dans l'apostolat vont la vivre dans leur apostolat aussi. Épreuve de vie personnelle d'abord. Souvent dans l'élan de la générosité première et d'une grâce plus sensible, quand on se convertit, mettons, OK? La sainteté apparaît presque facile. Hein? Mon Dieu que je vous aime d'homme. Hein? Je vous le disais, bon. Et là, tu es rendu à « Mon Dieu que je vous aime donc pas. » Et je dirais que la difficulté de l'apôtre, quand il était jeune, les difficultés sont envisagées plutôt que vécues, OK? Mais quand tu es dedans, faut que tu découvres toi-même, faut t'apprendre à découvrir ta faiblesse, bon, les replis du péché dans ta vie. Et arrivé au milieu de ta vie, l'apôtre voit le décalage entre ses rêves de jeunesse et la réalisation concrète. Et ça le fait souffrir. Ça le fait souffrir. Regardez, par exemple, des fois, le regard attristé de l'homme de 48, 50 ans ou de la femme, qui est chrétien, apôtre, et qui s'est donné beaucoup dans des projets depuis 15, 20 ans. Et il est là, d'un coup, il entend le jeune qui arrive 20 ans, 22 ans, 18 ans. Puis il discute de réformes. C'est comme ça, ça va être. Tu te dis que moi, je vais changer ça. Puis il discute des œuvres qu'il veut créer. C'est pas correct, mais des fois, l'homme ou la femme de 48, 50 ans aurait envie de dire à ce jeune, « Nous aussi, c'est mon gars, nous avions pensé faire de grandes choses, et des années ont passé. Et si tu savais comme on est loin de nos rêves? » Des fois, l'agressivité des gens de 45, 50 ans contre des jeunes, c'est pas le jeune, c'est pas envers le jeune qui est agressif. Il est déçu. Il voit dans le jeune ce qu'il a été. Il voit dans le jeune ce qu'il a été. Et il est déçu de lui. C'est pour ça qu'il est agressif contre l'homme. L'homme de 40 ou 50 ans fait l'expérience de la résistance du milieu, de la persécution même dans les groupes apostoliques, de la jalousie. Il ne savait pas ça à 18 ans. Il ne savait pas ça à 20 ans. Il ne savait pas ça à 25 ans. Parce que quand on a 20 ans, 25 ans, on croit qu'il suffit de vouloir pour que tout se réalise. Ainsi, celui ou celle qui était parti avec un bel élan se retrouve parfois au milieu de sa vie déconcerté par les événements, seul, déçu par les autres, désillusionné sur lui-même, étrangement pauvre et seul. Dieu le purifie dans son apostolat. Vois-tu? Par son apostolat. Et des fois, en même temps, on dira que Dieu n'est plus là, ou tu ne le sens plus. Alors, à un moment donné, tu dois te dire qu'il y a une autre étape qui se passe dans ta vie. De penser faire beaucoup de bien, il faut que tu vois que la fécondité, ce n'est pas toujours dans l'action. C'est le père Matthéo qui disait, on éclaire par la parole, mais on sauve les âmes par la souffrance. C'est beau, ça. On éclaire par la parole, mais on sauve les âmes par la souffrance. Et l'apôtre d'Angemur découvre une loi apostolique, c'est que l'homme réalise à un moment donné. Ce que l'homme réalise n'est pas à la mesure de ce qu'il désire. Mais en même temps, il faut qu'il continue à avoir de grands désirs. Et là, tu arrives à une certaine sagesse. Quand tu ne décourages pas de toi, tu vois ta fragilité, mais en même temps, tu continues à avoir de grands désirs dans ton cœur, même quand tu sais que tu ne pourras pas tout faire. Vous savez, Saint-Vincent de Paul, ce grand homme d'action, ce grand apôtre, il était vieux. Et puis à un moment donné, il avait fait des œuvres, s'occuper des enfants. Il avait ramassé, il s'occupait des prisonniers, toute sa vie il a travaillé. Et il était rendu à 71, 72, et puis il était tout courbé. Voilà que quelqu'un lui demande, « Monsieur Vincent, que faut-il faire maintenant? » Et Saint-Vincent de Paul répond, « Davantage, même s'il n'est plus capable de le désirer. » Le Père Roy, notre fondateur, et là, disait, « Moi, je fais des projets. » J'en fais 100, j'en désire 100, même si j'en réalise seulement 2. Le bon Dieu est content pour les 100 que j'ai désirés. Vous savez, à travers tout ça, c'est étrange que souvent dans nos vies, nous passons vite de l'idéal, l'idéalisme, à la dépression. Si le début de la vie humaine est souvent, comme je disais, un temps d'idéalisme, de générosité, on va changer le monde. Très vite, à un certain âge, on commence à toucher nos limites. Très vite, on commence à toucher notre pauvreté. On commence à toucher nos blessures. On commence à toucher nos blocages psychologiques. Et voilà qu'on a l'impression qu'il y a quantité de choses qui ne pourront pas changer en nous. On veut changer. On s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne changeront peut-être pas, qu'on va garder peut-être notre tempérament de chien. Je veux dire comme Jean Vanier, qui disait, moi si j'étais de bon Dieu, là, avec certains tempéraments de chien, même s'ils me demandent de changer, je ne les changerai jamais. Parce qu'ils ont des tempéraments de chien. Mais si j'étais de bon Dieu, c'est si beau de le voir, c'est si beau de l'avoir, quelle humilité avec à s'échapper en en demandant pardon. Alors j'y garderai. Sont apparemment de chien. C'est beau, hein? Si tu as un apparemment de chien, tu en souffres, tu demandes pardon au Seigneur, tu demandes pardon aux autres, mais tu progresses, tu deviens saint. C'est pas le résultat qui compte, c'est l'humilité du cœur. Alors, des fois, tu as l'impression, tu sais, que c'est ça, tu vois tes blessures. Et puis, il peut arriver à un moment donné que si tu ne les acceptes pas, il peut arriver comme une dépression. Tu déprimes. Tu déprimes. J'en passe un peu, là, parce que je ne veux pas... Ah oui, ça je veux dire. Ce que Jésus nous demande, c'est pas d'être parfait. C'est de marcher avec nos difficultés, de grandir à partir de ce que nous sommes, grandir à partir de ce que nous sommes, avec nos pauvretés, avec nos blocages, mais constamment recourir à lui, Jésus, pour grandir dans l'humilité, même si je tombe tous les jours. L'essentiel, c'est que je veux toujours recommencer. Mais souvent, à cause de l'orgueil, on a de la misère à accepter nos limites. On a de la misère à se voir dans l'Évangile, vous savez. On va faire des retraites, on dit, mon Dieu, ça sera bon pour ma belle-sœur. Mon Dieu, ça y ferait du bien. On ne voit pas, on ne se voit pas, on voit les autres. Très souvent, c'est ça. On a de la misère à voir nos limites. On regarde en arrière et là, on voit qu'au début, peut-être, de mon engagement, j'étais plein d'ardeur, de zèle. Et peu à peu, à cause de bien des choses, arrive la déception dans ma vie. Il y a des déceptions dans nos vies. La déception peut être dans le mariage, qui paraissait si beau, puis là je vois beaucoup de choses qui ne vont pas. Je peux avoir la déception dans ma vie de communauté, si je suis d'une communauté, ça paraissait si beau, puis là je vois les défauts des gens, puis là je me décourage. Hein? Et puis là mes forces diminuent. Hein? Alors, à un moment donné, si je ne fais pas attention, je peux être dominé par l'angoisse et la dépression. Il arrive un moment où je regarde en arrière et je me rappelle la joie de mes premières années ou de mes premières années d'engagement. Alors, il y a une réaction en nous-mêmes et nous disons, « Oh, ça va être impossible de retrouver mon cœur d'autrefois. Ça va être impossible de retrouver mon cœur de jeunesse qui faisait qu'il y avait un élan en moi pour aimer. Ça va être impossible. » Et là, je déprime. Je déprime. Et si vous voulez, en parlant de dépression, on va regarder un personnage de la Bible qui est déprimé. Et on va regarder ce qu'il peut nous apporter à nous présentement. Dans l'Épître de Saint-Jacques, au chapitre 5, verset 17, on peut lire, « Élie était un homme semblable à moi. Okay. » Je disais ce matin que parfois, si la Bible ne nous fait pas beaucoup de bien, c'est qu'on a trop lu peut-être la Bible, en pensant que les personnages de la Bible étaient tellement... il n'y avait pas de défaut. On les a tellement idéalisés qu'on oubliait qu'ils étaient des hommes comme nous, avec leurs peurs, avec leurs fragilités, avec leur angoisse, avec leur dépression, pas avec leurs péchés. La Bible dit qu'Élie était un homme comme nous. Alors au début de sa vie, on ne regardera pas tout, on va regarder comment ça l'amenait à la dépression. Alors, au début de sa vie, Élie, c'est un gars fort, comprends-tu? Il est rempli de zèle. On va y savoir les Anglais. Il est rempli de zèle. Il brûle d'amour. C'est marqué dans la Bible qu'à un moment donné, il lutte contre 450 faux prophètes. Puis il est seul. Bon. Alors, envoyons par là, on va y savoir, puis il court partout, puis il fait du bien. Et soudain, et c'est là qu'on va regarder, c'est marqué que la reine Jézabel, un peu écœurante, réagit. Excusez mes expressions, c'est pour vous mettre ça plus concret. Elle réagit et jure de le tuer, l'écœurant d'Élie qu'elle a mis. Okay. Alors, elle envoie une lettre, elle jure de le tuer. Et dans le livre des Rois, premier livre des Rois, chapitre 19, on lit, écoutez ça. Élie eut peur. Il se leva et partit pour se sauver. Puis, il marcha dans le désert un jour de chemin. Il alla s'asseoir sur un genêt, sous un genêt, un arbre. Alors, il souhaita mourir et dit, « C'en est assez maintenant, Yahvé, c'en est assez. Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et là, je vais mettre ça au tableau, parce que c'est bien le fun, comment c'est pour aujourd'hui, et ça date de milliers d'années. Et regardez comment c'est le fun quand tu vois la Bible comme ça, comment c'est pour aujourd'hui. On va simplement mettre les mots qui sont employés et comment ça ressemble pour aujourd'hui. La Bible dit, premièrement, il eut peur. Deuxièmement, il se sauva. Se sauver. Troisièmement, dans le désert, loin du monde, les écœurants qui venaient tranquille. Quatrièmement, il alla s'asseoir, lui qui courait partout, il est tanné. Ça ne s'est pas arrivé des fois, il est tanné. Cinquièmement, il souhaita mourir. Sixièmement, c'est assez, en québécois, j'ai mon voyage. Mais regardez si c'est le fun, pourquoi? Parce que ces six attitudes décrites il y a des milliers d'années sont exactement les six attitudes de quelqu'un qui passe une dépression. Qui sont les six attitudes modernes encore de quelqu'un qui déprime. Ou quelqu'un qui fait un burn-out, si vous voulez une autre expression, comme on dit aujourd'hui. Et là, on va regarder... Pourquoi Élie en vient-il à déprimer, puis on va se reconnaître un peu. Pourquoi Élie en vient-il à déprimer, puis dire, il souhaita mourir, et même dire, c'en est assez, prends ma vie. Quand on regarde entre les lignes, Élie était un vrai candidat pour une dépression, parce que d'abord, à ce moment-là de sa vie, il était fatigué. Il était fatigué physiquement, puis il était fatigué émotionnellement. Et la Bible nous dit qu'il sentait de la peur, du ressentiment, de l'agressivité, de la culpabilité et de la solitude. Et c'est ça, toutes les choses pour une dépression. Est-ce que tu as ressenti ça dans ta vie, dernièrement? Élie va venir à regarder les choses et les événements de façon négative. Et une chose importante dans cet épisode de la vie d'Élie, Élie regarde plus ses sentiments et ce qu'il ressent au lieu de regarder les faits. Quand tu déprimes, au lieu de voir les faits tels qu'ils sont, tu les grossis, tu vois plus tes sentiments. Tu réagis sans, avec tes sentiments au lieu de voir les faits, OK? Quelqu'un oublie de t'envoyer une carte, tu dis « Amaï ». Tu sais ça, réagir avec un sentiment. Tu dis « Avant, peut-être oublié, mais toi, Amaï ». Comment c'est ça? Lorsque nous sommes déprimés, nous sommes centrés plus sur nos sentiments au lieu de nous centrer sur les faits. Écoutez là ce qui arrive. Élie, au lieu de se dire « Moi, je me sens comme une faillite », ou « Moi, je me sens comme un bon à rien », il se dit « Moi, je suis une faillite, moi, je suis un bon à rien ». Tu peux sentir un bon à rien, ça veut dire que tu l'es. Tu sais, si ton petit bonhomme, il fait quelque chose, puis il dit « Je suis un écœurant », ben non, tu n'es pas un écœurant, maman. Il ne faut pas dire ça comme ça, tu n'es pas un écœurant. Tu te sens un écœurant, mais tu n'es pas un écœurant. Tu comprends-tu? Les différences entre le sentiment et les faits. Et avant de regarder en détail les causes de sa dépression, nous allons regarder une chose importante. Élie, il dit, je ne suis pas meilleur que les autres, je ne suis pas meilleur que mes pères. Souvent, une personne qui est portée à la dépression est une personne portée à se comparer aux autres. Si j'étais comme lui, si j'avais son don à lui, à elle, si j'avais sa qualité, « Oh là, je serais heureux, je serais heureux. » Et la Bible nous dit de ne pas nous comparer aux autres. Une autre chose, Élie va tout se mettre sur le dos. Il pense que si les gens ne se sont pas convertis et ils n'ont pas changé, c'est sa faute à lui. Il y a des gens très, très généreux dans le pasteur, c'est pas tant ça. Ils organisent des affaires, puis si les gens ne se convertissent pas, c'est moi qui étais écœurant. C'est l'erreur de certains apôtres. Si mon enfant est à côté, c'est ma faute. Si mon groupe de pastoral ne marche pas, c'est ma faute. On oublie que les gens sont libres de dire non. Il faut leur offrir, mais ils sont libres de dire non. Et tu ne peux pas les forcer. Comme l'enfant prodigue, le père le laisse partir son gars. Il ne l'attache pas. Et nous allons voir maintenant quelques causes de la dépression d'Élie. Et comment ça peut nous apporter... nous apprendre des choses sur notre vie d'apôtre et de chrétien et peut-être sur nos petites dépressions. La première cause de la dépression d'Élie, et notre confesseur connaît, c'est qu'il a été trop vite, a été trop impulsif. Il a décidé tout de suite de se sauver. Il venait de recevoir le message de Jézabel qui dit qu'elle voulait le tuer. Et lui, pourtant, qui était un homme fort avant, mais quand tu es fatigué, tu sais, c'est pas la même chose. Aussi, il est fatigué, là. Hein? On va voir ça, là. Alors, il est fatigué. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'une chose, que s'il n'avait pas été fatigué, il n'aurait été rien pour lui, est devenue très grosse. Et quand il reçoit le message de Jézabel, qui a dit, je vais tuer mon écœurant, la chienne le prit. La chienne le prit. Lui, qui était fort, il commence à trembler devant une petite femme qui lui envoie une lettre. Il n'a pas pris le temps de réfléchir. Quand tu es fatigué, des fois, tu réfléchis plus. Et tu fais des gestes impulsifs. Il ne prend pas le temps de réfléchir, il ne prend pas le temps de discerner, il ne prend pas le temps de dire que ce que tu en penses à un autre. Il ne prend pas le temps de prier. Il s'est trop fié à ses sentiments et il eut peur. Il s'est fié à sa peur et il s'est sauvé. Qu'est-ce qui est arrivé? Il sauve vite, vite, il est impulsif, repensé. Puis là, il est dans le désert. Puis là, il commence à réaliser ce qu'il a fait. Puis il dit, oh, pas moi de prophète. Oh, c'est, après tout ce que le bon Dieu m'a donné. Oh, je suis un écœurant. Oh, je suis un écœurant. Tu sais quel âge j'ai été. Moi que Dieu avait tant donné de grâce. Oh, moi qui ai fait des guérisons. Moi qui avais été choisi. Oh, je me suis sauvé de mon devoir. J'ai eu peur. Oh, je suis un bon à rien. Prends ma vie, Seigneur. Hein? T'es impulsif, puis après, tu te vois tout en moi. Et à force de ruminer sa lâcheté, il devient déprimé. Une personne déprimée est souvent une personne sensible, impulsive, et sensible surtout à ce que les autres vont dire. Et Élie réagit à ce que les gens vont dire plutôt qu'en réfléchissant. Ils vont dire « je suis un lâche, donc je veux mourir ». Deuxième chose. Une autre chose que nous apprend la dépression d'Élie. Elle arrive dans sa vie après une période de grande activité et de grande grâce sensible. On sait qu'avant ça, Élie avait fait des miracles. Dieu s'était manifesté. Il était rempli de zèle pour le Seigneur, puis il en faisait des affaires. Il avait emporté une victoire contre les faux prophètes de Baal. Il avait vécu un rêve, je dirais. Comme disent certains, il flottait sur un petit nuage rose, là. Hein? Il avait vécu des gros closings pour les gens. Et ça arrive à bien des personnes, apôtres. On fait des fins de semaine, on s'engage, ce qui nous bouleverse. On sent Jésus quasiment dans nos tripes. On voit des gens se convertir. On pleure de joie. On passerait la nuit à prier. On se demande bientôt. On dort quasiment pas parce que ce que tu veux, il faut faire de l'apostolat avec les autres. Il faut écouter les autres. On dort plus. Tu sais, on dort plus. Il n'y a plus de problème. Tu as besoin de sommeil. Ça dit bien. Mais tu crains. Une autre raison de la dépression d'Élie, il était dans un état de surmenage mental et nerveux. Pendant 3 ans et demi, il avait connu une formidable tension apostolique et avait atteint le point culminant du combat dans l'éclatante victoire du Carmel contre les faux prophètes. Donc, Élie était exténué nerveusement, exténué mentalement. Une autre raison qui continue, la fatigue physique et la faim. La fatigue physique et la faim. Tu sais, moi quand quelqu'un me parle, là, puis bon, là, oh, je me sens déprimé, je devrais aller prier, je devrais aller dans mon appel. Non, non, mange un steak, puis mange un balanche. Non, mais c'est ça que tu regardes d'abord, puis dors. Dors 2-3 jours, mange un steak, fais l'honneur. La fatigue physique et la faim. Vous savez, c'est très concret, les choses de la Bible, là. C'est très, très concret. La tension émotionnelle qu'il avait vécue avec les prophètes de Baal l'avait fatigué. Et avant qu'il ait le temps de dormir, il n'a plus le temps de dormir, il ne peut plus récupérer, ça t'arrivait des fois dans ta vie, ça. Il n'a plus le temps de manger un bon repas, et voici qu'il reçoit tout de suite le message de Jézabel disant qu'elle peut le tuer. Écoutez ça, là, ça va vous servir toute votre vie. Lorsqu'on est fatigué, les choses nous semblent plus grosses qu'elles sont. Lorsqu'on est fatigué, les choses apparaissent plus grosses qu'elles sont. Il n'a pas dormi, il est fatigué physiquement, il est fatigué nerveusement, alors il réagit sous l'émotion. Voyez-vous, parfois, il y a des apôtres très engagés durant des années, qui travaillent. Ils vivent des moments intenses d'émotion, ils ne dorment pas sous prétexte qu'ils ont des contacts apostoliques à faire, et puis ils se vident nerveusement. Il se fatigue et le démon les pousse à se fatiguer encore plus. Oui, fais-en plus de l'apostolat. On appelle ça, Saint-Ignace appelle ça la tentation sous l'apparence du bien. Et le démon fait ça afin de les vider de leur énergie pour pouvoir les faire craquer et les faire tomber dans le péché plus vite. Lorsque tu es trop fatigué, physiquement, émotionnellement, tu n'as plus de force au niveau spirituel. Parce qu'on n'est pas des anges, on est des êtres corporels. Corporels. Et le démon va toujours essayer de nous faire courir dans toutes les directions pour nous fatiguer, nous épuiser, afin de nous décourager. Et regardez si c'est beau. Même dans l'Évangile, Jésus nous montre qu'il faut que les apôtres aient des temps de repos. Vous vous souvenez de ça? Il envoie ses apôtres évangéliser dans les villages. Puis au retour, voici ce qu'il dit. Venez un peu à l'écart et reposez-vous un peu. C'est beau, hein? Jésus qui dit, hey, vous n'avez trop fait, là, venez vous reposer un peu. Venez vous reposer un peu. Lorsque nous sommes épuisés et fatigués, les problèmes qu'on a nous semblent plus gros qu'ils sont. La dépression vient souvent quand le corps est fatigué, les nerfs fusés. Et dans la vie du chrétien, de l'apôtre, il est important d'avoir des moments de repos et de récupération.
Moi, quand je suis fatigué, là, je me promène focus, j'aime bien les guides, focus. Je lis des bandes dessinées. C'est vraiment facile avec la capacité, je fais comme ça. Bon. Et là, j'essaie de m'en poser. La seule fois que je donne la retraite, c'est que je faisais des bandes dessinées quand je suis fatigué. C'est qu'à la fin de la retraite, je travaillais sur mon bureau, puis j'avais un chèque. 25$ avec un petit mot. C'est pour toi, André. Achète-toi quelques bandes dessinées pour continuer à nous faire des belles retraites.
Ah. Mais faut, chacun c'est différent, mais il faut vous trouver quelque chose qui vous repose. Quelque chose qui vous repose. Quelque chose qui fait que vous êtes bien dans ça. Il y en a que ça peut être le sport, il y en a que ça peut être la détente, ça peut être un beau spectacle, quelque chose, mais quelque chose qui vous repose. On ne peut pas toujours être tendu. Une autre chose, comme Saint-Pierre, vous vous souvenez, qui marcha sur les eaux, puis tout d'un coup il coula, Élie arrêta de regarder Dieu pour regarder trop la tempête dans sa vie. Au lieu de regarder Dieu, tu te regardes trop toi-même. Une autre chose aussi, il ne faut pas oublier, Élie était un grand passionné, un brûlant de zèle. Élie est un homme engagé à fond, engagé en fond. C'est pour ça que Dieu va purifier Élie. Dieu, un peu comme il a fait avec Jacob, il va le mettre en crise afin qu'il va le rendre ferme comme Jacob. Et Élie, qui gagnait toujours ses affaires, va perdre. Et lui qui n'est pas habitué à perdre, il va se décourager. Je ne suis pas meilleur que mon père, prends ma vie. Une chose très importante au niveau de la dépression, l'homme ou la femme en crise ou en dépression, vous l'avez peut-être déjà vu, vous l'avez peut-être fait vous-même. Il n'y a pas des petites dépressions, c'est des grosses affaires. Mais dans le fond, quand c'est déprimé, l'homme et la femme, déprimés, commencent toujours à vomir ce dont elle était trop pleine ou trop pleine. Élie se croyait vraiment meilleur que les autres. Il avait tellement travaillé pour Dieu, mais il ne s'était pas aperçu qu'il avait aussi travaillé pour lui-même, pour son succès personnel, pour son triomphe, pour son apostolat. Alors Élie va réagir en passionné, même dans sa dépression. Hein? On a toujours notre tempérament, même dans nos dépressions. L'homme ou la femme en crise, en dépression, d'abord, commence toujours par exagérer et se précipiter vers la voie contraire de ce qu'il était. OK? Si auparavant, il a exagéré dans l'action, le voilà maintenant qui va maudire l'action. Avez-vous des gens déprimés, m'en est, il était très, très actif, de vous le même, comme plus rien. Je suis tanné, j'en fais plus, j'en fais rien. D'autres, ils n'ont plus rien, ils se mettent à courir partout. Il y a des déprimés, il y a des dépressions comme ça. Tu sais, des gars bien calmes, des coups, ils se mettent à courir partout. Ils sont déprimés comme ça. Les autres, dans l'action, ils disent, contraire. Si avant, il en faisait trop, il ne savait pas s'arrêter, maintenant, il ne veut plus rien faire. Regardez les réactions de certains apôtres que ça ne marche pas à leur goût. Ils réagissent le contraire. Mettons qu'ils étaient très engagés dans les mouvements. Ils ne me comprennent pas, j'arrête tout. Ils vont payer. Ils ne veulent pas que je sois apôtre comme je l'entends, je ne serai pas apôtre pantoute. Je vais leur montrer que j'en faisais du bien. Ils vont s'apercevoir que j'étais là. Tu ne vois pas que c'est l'orgueil, ça? Et des fois, c'est pas seulement ils vont payer, c'est plus profond, c'est Dieu va payer. Hein? Tu m'as voulu me décevoir, là. Tu vas te faire payer, c'est plus rien. Hein? C'est assez, Seigneur, prends ma vie. Je suis pas meilleur que mes pères. Plus un apôtre a des dons d'apôtre, plus il peut connaître dans sa vie de grands découragements. Plus quelqu'un est passionné, plus il est passionné aussi dans ses découragements. Il semble une autre affaire aussi, que vous allez peut-être vous reconnaître. Élie, d'après la Bible, semble être un homme qui était très perfectionné. Il exigeait la perfection pour lui-même. Il avait de la misère à accepter sa faiblesse. Et lorsqu'il a eu une faiblesse assez grave, il s'est dit que Dieu l'avait abandonné, parce que lui, il ne pouvait pas être faible, voyons, parce qu'il était un prophète. C'est étrange, lorsque tu passes une épreuve, une période noire, comme tu oublies toutes les belles choses que tu as vécues avant. Élie, à ce moment-là, sa dépression, là, quand tu es déprimé, tu ne vois pas les belles choses qui sont arrivées avant. Élie, dans sa dépression, là, ici, là, il pensait pas qu'il avait déjà ressuscité un mort. Il pensait pas qu'il avait prié pour qu'il cesse de pleuvoir et le ciel lui avait obéi. Élie était déprimé parce qu'Élie regardait sa faiblesse et sa lâcheté plutôt que voir les belles choses que Dieu avait réalisées en lui dans le passé. Il voyait tout en noir et se voyait en noir. Il voyait tout en noir et se voyait en noir. Maintenant, regardez comment c'est pratique la Bible. Quel remède Dieu va prendre pour faire sortir Élie de sa dépression? Quel remède Dieu va prendre pour le faire sortir de sa noirceur? Qu'est-ce que Dieu va faire pour le guérir de sa dépression? Et là, j'ai trouvé ça quasiment comique. Première chose. Vous pensez peut-être qu'on fait des grandes affaires. Il va le faire manger et se reposer. Dans 1 Roi 19, versets 5 à 8. Alors écoutez ça, c'est le fun. Alors, Élie se coucha encore. Il s'endormit. Bon, Dieu s'est reposé un peu. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda, et voici qu'il y avait à son chevet une galette cuite et une grosse gourde d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. Après qu'il s'est reposé, Dieu l'a fait se recoucher. Il a besoin de repos. Voici que l'ange de Yahvé revint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi et mange encore. Repose-toi, mange. Repose-toi, mange. Lève-toi et mange encore. Autrement, le chemin sera trop long pour toi. Élie se leva, Élie mangea encore et but. Puis, soutenu par cette nourriture, il marcha jusqu'à la montagne de Dieu, Lorraine. Ça, c'est tout ça extraordinaire. Souvent, lorsque c'est noir, lorsqu'on est découragé, qu'on est pessimiste, la première chose à faire, des fois, c'est peut-être de dormir et de bien manger. C'est-à-dire, équilibrer ta vie. Vous savez, dans la vie, vous savez, les saints ont des pieds à terre, les vrais saints, pas tous les faux saints. Les faux saints sont toujours eux autres. Ah, les faux saints, non. Mais les vrais saints ont un pied à terre. Sainte-Thérèse de Lisieux, un jour, quelqu'un vient de dire, « Oh, ma mère, il y a une de nos religieuses qui dit qu'elle a des visions. Que devons-nous faire? » Alors là, que la grosse Thérèse, qui s'appelle la grosse, la petite Thérèse, alors, elle dit, donnez-lui du poulet et faites-la dormir, et après quelque temps, elle viendra me voir et je regarderai ses visions. Donnez-lui du poulet, faites-la dormir, et après ça, en voulant dire, ça ne mange pas, là. Ça ne mange pas assez, vous allez avoir des visions. Là. Ça, c'est les saints, ça, c'est les vrais saints, il y a un deux qui a fait. Elle t'a pas contre les visions, mais avant, oh oui, c'est une vision. Regarde ça, tes côtés humains, avant, après ça, tu verras. Et ça, c'est la sagesse de l'Église aussi. Vous savez, des fois, on est sévère, on se dit, comment tu fais qu'ils ne disent pas tout de suite, oui, ça s'invite, oui. C'est la prudence de l'Église. Alors, regarde ça tes côtés humains, après, on verra ce qu'il y a de vraie vision. Faites-la prendre du poulet, et après, on verra sa vision. Deuxième chose que Dieu fait, alors, je veux dire que des fois, là, lorsque tu es fatigué, tu es déprimé, c'est de dormir et de bien manger. Manger un bon steak, prendre de l'air, quelque chose comme ça. Deuxième chose que Dieu fait pour le guérir de sa noirceur, c'est comme s'il disait à Élie, Élie, bon, t'as mangé, t'as dormi, arrête de te gratter le nombril. Arrête de ruminer, lève-toi puis marche, fais de l'exercice. Oublie un peu le passé, oublie-toi, marche, fais du jogging. Va vers la montagne de Dieu. Fais quelque chose pour moi. Oublie tes problèmes. Tu y repenseras peut-être plus tard, mais là, c'est pas le temps. Oublie tes problèmes, fais quelque chose pour un autre. Ça m'est arrivé, moi, avec des jeunes qui disent, « Oh, j'ai souffert, c'est épouvantable, c'est effrayant. » Va voir la petite vieille qui a rien mangé, puis va la faire manger. Va t'occuper d'un autre qui s'occupe plus de toi. De tes problèmes diminuent. Fais du jogging, fais quelque chose, oublie-toi, arrête de ruminer. Troisième moyen que Dieu a pris Et ça, c'est bien de fun, parce que ça va vous aider même dans votre apostolat auprès des autres. Dieu lui fait exprimer ses émotions et ses sentiments et ses souffrances. Arrête de ruminer, Élie, mais engueule quelqu'un, puis engueule-moi. Ça vous surprend, hein? Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qu'on peut engueuler. C'est partout dans la Bible. C'est un Dieu qu'on peut engueuler. Et pour moi, quelqu'un qui engueule le bon Dieu, c'est un signe de foi. Parce que c'est signe. On engueule une personne qu'on est proche. T'engueules pas un inconnu? Ah ah! C'est pour ça que Job, quand il comprend plus rien, il perd ça, il dit « Dieu, ça y est, c'est Jérémie, quand il est déprimé, lui, maudit ma mère, quand elle m'a eu, elle a dû me casser la tête, ses murs. Ça, c'est les personnages de la Bible. Ils sont très concrets, ils sont très en chair et en os. Alors, Dieu dit, arrête de ruminer, mais engueule quelqu'un. Voici que la parole de Yahvé, 1 Roi 19:9-10. Voici que la parole de Yahvé lui fut adressée, lui disant, et c'est cute, quand tu lances les lignes, il faut que tu vois le ton. Hein. Alors, il dit, hein. Que fais-tu ici, Élie? T'as qu'à faire là! Et là, Élie répond, j'étais, oui. J'étais rempli de zèle jaloux pour Yahvé, parce que les enfants d'Israël t'avaient abandonné et abattu tes autels. Mais je suis resté seul, maudit, je suis resté seul, et je cherche maintenant à m'enlever la vie. C'est carré, moi. Hein? C'est pas ça que vous avez dit des fois. Écoute, Seigneur, je m'étais engagé comme un moulinier à Dieu, puis je veux de rien savoir. Je suis animateur, puis je veux de rien savoir, non, je suis tanné. C'est très bon de pouvoir exprimer librement nos souffrances. Vous savez, on dit ça, ça fait penser un peu à la mort. Tu sais, quand quelqu'un meurt, moi, ça me fait serrer quand on dit de perdre. C'est quelqu'un qui m'a crié, m'a pleuré, tu suis ton cours après, puis prends sur toi. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est prends pas sur toi. C'est prends pas sur toi. Parce que si tu dis prends sur toi, elle va déprimer dans 2 ans. Le deuil, ça se dit. Ça fait mal. C'est comme une histoire. Je sais pas si c'est vrai, mais ça va être vrai, parce qu'on va demander comme une histoire, au cas où c'est pas vrai. J'ai dit ça dans le livre, je trouve ça qui est. C'est une femme qui cogne un presbytère. Le vicaire vient répondre. C'est bonjour que vous l'avez. Elle dit, il y a reste une place où je pourrais crier. Alors le jeune abbé qui n'a pas pu y apprendre, il l'emmène à la chapelle. Elle dit, si j'avais voulu prier, je vous arrête, je veux prier, je veux crier. Il y a des fois tu veux prier, mais il y a des fois tu veux crier. Et vous savez, la mort, les gens faudraient qu'ils vivent là, leurs sentiments. On les bourre de peu là, ils ont l'air des zombies dans son mortuaire. C'est sympathique. Merci. C'est vrai que c'est rendu comme ça. Parce que le deuil, ça fait mal, si tu veux. Moi, j'avais une femme qui avait porté une pelule une fois sur ça. Son jeune était mort d'un accident, j'avais trouvé ça terrible. Quand ça va, son ordinateur, moi, Christian Brouilleux, d'un coup, elle se met à faire une crise. Là, criant, on a fait. Là, elle n'avait pas de pédule, je te dis qu'elle n'était pas dormie. Elle, ça criait. Puis, à un moment donné, elle prend son garçon dans la tombe. J'aimerais être en train de comprendre les autres, mon lumière, tu vas rester. La tombe, il est rendu pour la tombe. Cette femme-là, par exemple, Elle n'a pas déprimé. Elle a crié beaucoup, c'est bouleversant, mais ça a sorti comme ça. Sa douleur a sorti. Alors des fois, c'est pas de prier qu'il faut, c'est crier. Une autre chose que Dieu fait pour le guérir, et ça c'est le fun. Après, il a fait exprimer ses affaires. Ah oui, je n'ai pas fini là. Je voulais dire que. Parce qu'ils m'ont dit que je parlais trop longtemps, j'essaie de rapetisser, des fois je vais un peu vite. C'est très bon de pouvoir exprimer librement nos souffrances à quelqu'un, à Dieu, à un ami, dans des moments noirs. On a besoin d'un ami à ce moment-là, d'un conseiller, d'un frère qui va nous écouter et surtout sans nous donner de conseils. Surtout sans nous donner de conseils. Les conseils, ça viendra après. Mais quand tu es déprimé, Puis quand tu as besoin, quand tu vis des choses comme ça, tu ne veux pas de conseils. C'est pas des conseils qu'il faut, surtout pas de conseils. On est porté, nous autres, les prêtres, ou même les chrétiens qui sont engagés, tout de suite vouloir donner des conseils. Écoute-moi, je vais te dire de quoi faire. Mais tu veux pas savoir quoi faire, Alors, on a besoin de quelqu'un qui nous écoute tel qu'on est. C'est pas des conseils qu'on a besoin, mais c'est un cœur qui écoute la souffrance. On veut pas être seul. On veut crier, mais avoir quelqu'un à côté. Parce que quand tu cries, t'as peur de devenir fou, mais tu viendras pas fou s'il y a quelqu'un à côté. Tu sais? Bon. Alors, quatrième chose. Une autre chose que Dieu fait pour le guérir, il lui donne un nouvel apostolat. Et ça, c'est cute. Il lui demande de devenir un maître pour des jeunes disciples. Après la crise au milieu de la vie, très souvent, tu es prêt pour aider les jeunes. Pas prendre leur place, apparemment. Au contraire, te retirer et donner la place aux jeunes, puis aider les jeunes, les encourager. Un roi 19-15. Yahvé lui dit, va maintenant, retourne par le même chemin, vers le désert de Damas. Et là, tu iras oindre Hazael comme roi d'Aram. Et tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Ça, c'est le fond. La dépression d'Élie l'amène à quoi? À plus de maturité. La dépression d'Élie l'amène à passer à d'autres certains dons qu'il a et en former d'autres. Des fois, il arrive des choses dans ta vie, une épreuve, une dépression, pour que toi, ça soit une nouvelle étape pour toi. Pour que tu laisses peut-être cette forme d'apostolat pour t'engager dans d'autres choses. Pour que tu puisses aider plus des jeunes à prendre ta place dans un certain âge. Parce que parfois, surtout quand on est très, 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 très actif, on veut tout faire tout seul. Et une purification, une dépression est l'occasion de voir nos limites et de les accepter. Une dépression peut-être, pour un apôtre parfois, un nouveau départ, un nouvel apostolat, un nouveau ministère. Et Élie obéit, il retourne par le même chemin et recouvre son ardeur apostolique. Il avait comme un nouveau cœur et un nouvel esprit. En terminant, quels furent maintenant les résultats et les fruits de l'épreuve et de la dépression d'Élie? Première chose, Élie devient beaucoup plus mature et sa vie spirituelle s'approfondit. Pourquoi? Parce qu'il en vient à accepter ses limites, accepter qu'il est un homme comme tous les autres avec des faiblesses. Il accepte ses faiblesses. Et sa vie spirituelle était moins idéaliste qu'avant, mais plus simple et plus profonde. Et toi, as-tu accepté tes limites? Es-tu trop perfectionniste comme Élie? Deuxième chose. Élie eut la joie d'entraîner un successeur, un fils spirituel, Élisée. Il devient fécond en donnant son esprit à un plus jeune. Quand tu arrives à un certain âge, 45, 50 ans, 40, ce que le bon Dieu te demande des fois, c'est essayer de passer ton esprit à un plus jeune. Pas qu'il fasse exactement comme toi, mais passer ton esprit à un plus jeune. Et tu dois être fécond. Parce que vous savez, dans la vie, on a tous un besoin d'être père et mère. Soit physique, mais en plus du côté physique, on a besoin d'être père et mère spirituel. Le prêtre l'est d'une certaine façon. Peut-être plus fortement, on dit mon père dans ce sens-là, parce qu'il doit être père. Mais chaque chrétien doit aussi être père et mère pour d'autres. Être fécond dans ce sens-là. Et parfois, Dieu nous demande à un moment donné d'aider des plus jeunes à prendre notre place, même si au début, ils font des gaffes. Alors, on peut se poser des questions en terminant. De quelle façon dans ma vie, dans mes petites ou plus grandes dépressions, j'ai ressemblé à Élie? Est-ce que j'ai pris les mêmes moyens que Dieu a fait avec lui pour en sortir? Qu'est-ce que cette conférence m'apprend concrètement quand je serai en contact avec des gens qui font des déprimes? Je m'arrête là.